La porteuse de pain, première partie, chapitres 51 à 55. Jacques Garot écoutait d'un air sombre, sans interrompre. Ovide poursuivit. « Vois-tu, ma vieille, j'ai été assez longtemps à sous-ordre. Je veux devenir patron à mon tour. C'est une idée parfaitement arrêtée. Ainsi donc, donne-moi l'usine et 40 000 $ de fonds de roulement, sinon je dis à qui veut l'entendre que Paul Armand, jouissant ici de l'estime universelle, n'est qu'un joli gredin qui se nomme Jacques Garot. Et, après l'avoir dit, je le prouve. C'est ça qui fera plaisir à ta fille. Ah, tu avais un fier toupet, mon bonhomme, quand tu me faisais de la morale sur le paquebot, entre Southampton et New York. Le plus canaille de nous deux, tu sais que c'était toi. Du reste, très fort et très chic. Bref, restons d'amis et cousins comme devant. Sois gentil, et ce n'est pas moi qui t'empêcherai d'être heureux. Pars pour la France et fais-y beaucoup d'esbroufs sous le nom de Paul Armand. Ça m'enchantera, pourvu que je reste ici, seul maître de l'ancienne maison, James Mortimer et compagnie. » Jacques s'était levé. Il marcha sur Ovide, les yeux égarés, les poings serrés, menaçants. « Et si je te tuais ? » fit-il d'une voix sifflante. Ovide se mit à rire en roulant avec le plus complet sang-froid une autre cigarette. « Ça ne te servirait pas à grand-chose, » répliqua-t-il. « Mon testament est déposé chez un solliciteur de New York. » Il contient ta biographie avec pièce à l'appui. Je ne serais pas plutôt mort qu'on saurait qui tu es. Ah ! Cria Jacques avec un geste de désespoir. Tu me tiens. Parbleu ! Chacun son tour, cousin. Que décides-tu ? L'ex-contremaître prit brusquement son parti. Viens avec moi, dit-il. Où me conduiras-tu ? Chez Nicolas Davidson, mon banquier. Dans une heure, l'usine t'appartiendra et tu auras touché 40 000 $. Bravo, cousin, tu agis en sage. Maintenant que nous voici d'accord et que nous savons à quoi nous en tenir l'un sur l'autre, je crois en effet qu'une séparation s'impose. Toi, de ton côté, moi du mien. J'espère seulement que nos relations de bonne amitié continueront par correspondance. Jacques ne répondit pas à cette phrase ironique. Viens, répéta-t-il. Et il quitta son cabinet, suivi d'Ovide rayonnant. Le soir même, l'usine était la propriété de ce dernier. 8 jours après, Paul Armand et Mary s'embarquaient pour le Havre, et avant la fin du mois, tous deux étaient installés dans un joli hôtel voisin du parc Monceau. L'ex-associé de James Mortimer avait de nombreuses relations d'affaires à Paris, avec des banquiers et de grands industriels, dont quelques-uns étaient venus chez lui à New York. Sa fortune connue, son honorabilité indiscutée, lui ouvraient toutes les portes et amenaient chez lui beaucoup de monde. Ce fut un événement dans un certain milieu quand on apprit qu'il se proposait de construire une usine grandiose aux environs de Paris pour y exploiter les inventions qu'il avait rendues riches et célèbres en Amérique. Jacques Garot s'occupa de chercher un terrain. Il trouva sur le bord de la Seine, à Courbevoie, 10 000 mètres, qui lui convenait à merveille et qu'il acheta sans tarder. Déjà, il s'occupait d'établir, avec un architecte en renom, les plans des constructions futures, quand un procès lui fut intenté à propos d'un droit de passage. Pour sortir au plus vite de ce procès qui entravait tout, il fallait un bon avocat, capable de mener rondement les choses. Jacques s'adressa au banquier détenteur d'une partie de ses capitaux et lui demanda un conseil sur le choix de cet avocat. Le banquier répondit. Pour plaider une affaire de servitude, vous n'avez nul besoin d'un avocat célèbre, qui d'ailleurs ne s'en chargerait pas volontiers, mais d'un garçon actif, intelligent, instruit. Je puis vous recommander un jeune homme dont le zèle et le talent m'ont été plusieurs fois très utiles. Vous n'aurez qu'à vous louer de lui. Voulez-vous que je vous donne son adresse ? Je vous en prie. J'irai m'entendre avec lui sur le champ. Le banquier écrivit sur un carré de papier ce nom et cette adresse. Georges Darrier, avocat, rue Bonaparte, numéro 19. Grand merci, dit Jacques en prenant la feuille. J'y vais. Une demi-heure plus tard, il arrivait rue Bonaparte. Georges, l'enfant d'adoption de Madame Clarisse Darrier, confié par le curé logier au peintre Étienne Castel, avait fait son chemin et réalisé les espérances que ses aptitudes permettaient de concevoir. Dans quelques mois, Georges allait atteindre sa 25e année. C'était un beau garçon, bien campé, aux cheveux fauves et aux yeux d'un bleu sombre. Son visage franc et loyal, d'une beauté régulière, offrait une expression habituellement sérieuse. Inscrit depuis 2 années au tableau des avocats du barreau de Paris, il avait déjà fait ses preuves. Ses collègues et les magistrats professaient à son égard beaucoup de sympathie et beaucoup d'estime. Tous lui croyaient un grand avenir. Il habitait un appartement au second étage de la maison portant le numéro 19 de la rue Bonaparte. Dans son cabinet de travail, meublé en chêne sculpté, 2 objets formaient disparates avec le luxe sévère de l'ensemble. C'était d'abord une petite bibliothèque d'acajou, pleine de livres, souvenirs du bon curé Laugier. C'était ensuite, dans un angle, une colonne en ébène supportant un petit cheval de bois et de carton recouvert d'un crêpe noir. Georges conservait cet humble jouet comme une relique, le croyant un cadeau de sa mère Clarisse Darier. Pour tout domestique, le jeune avocat avait une femme de 45 ans, excellente cuisinière. Il prenait habituellement ses repas chez lui quand il ne dînait point chez son ex-tuteur, Étienne Castel. Celui-ci, de son côté, venait assez souvent s'asseoir à la table de Georges. Le jeune homme étudiait un dossier volumineux au moment où sa domestique lui apporta la carte de Paul Armand. « Faites entrer, » dit-il. Jacques Garot franchit le seuil du cabinet. Georges quitta son siège et fit 2 pas au-devant de lui. Après 21 ans écoulés, le misérable, cause de tous les malheurs de Jeanne Fortier, se trouvait en présence du fils de sa victime. L'incendiaire d'Alfortville, l'assassin de M. Labroux, avait 50 ans. Ses cheveux, qu'il ne teignait plus, étaient blancs. Âgé seulement de 3 ans et demi à l'époque des événements dramatiques, formant en quelque sorte le prologue de ce récit, Georges ne pouvait garder aucun souvenir de la physionomie du contremaître. Le faux Paul Armand prit la parole. « Je vous suis adressé, monsieur, fit-il, par mon banquier Édouard Holberger, un de vos clients. »« Ce qui est un honneur pour moi, » interrompit Georges. Jacques continua. « Je suis français. » J'arrive d'Amérique où je dirigeais une usine de premier ordre pour la construction des machines. La santé de ma fille unique et aussi son désir de vivre en France m'ont décidé à liquider à New York et à revenir au pays natal. Mais je ne puis me passer de travail, d'activité, et quoique ma fortune me permette le repos, je vais recommencer en France mes travaux de là-bas. J'ai acheté à Courbevoie de vastes terrains, mais au moment où j'allais commencer mes constructions, j'ai été arrêté net par des difficultés. Des chicanes. De quelle nature ? Demanda Georges. L'ex-associé de James Mortimer donna des indications précises et produisit une copie de l'acte d'acquisition. Georges lut avec attention cet acte et dit : Vous êtes absolument dans votre droit, monsieur. Si vous faites un procès, vous le gagnerez. Je crois pouvoir en répondre. Alors, vous vous chargez de mon affaire ? De grand cœur. J'aurai besoin d'un pouvoir. Veuillez le préparer. « Je vais le remplir, il ne vous restera qu'à le signer. Dictez-moi, s'il vous plaît, vos noms, prénoms, qualités et demeures. »« Paul-Alexandre Armand, propriétaire, ingénieur mécanicien, demeurant à Paris, rue Murillo, numéro 27. » Le pouvoir rempli, Jacques Garot le signa de son faux nom. « Je vais agir immédiatement, dit l'avocat, et je vous tiendrai au courant. Vous aurez bientôt une lettre de moi. » S'il vous convenait de m'apporter vous-même des nouvelles, je serais heureux de vous recevoir. Et moi, monsieur, je serais heureux de profiter de votre gracieuse invitation. Le banquier Holberger n'avait point vanté outre mesure le talent, la science du droit et l'activité du jeune homme. Au bout d'un mois, les adversaires de Paul Armand, forcés de reconnaître l'inanité de leurs prétentions, se désistaient d'un procès qu'ils étaient sûrs de perdre, et les travaux de construction commençaient. Georges était venu 2 fois rue Murillo le matin, trouver son riche client dans son cabinet, et il avait été reçu de la manière la plus amicale par le père et par la fille. La vie active que menait Jacques Garot, surveillant lui-même ses entreprises, le retenait loin de chez lui pendant la plus grande partie de la journée, et Mary restait à l'hôtel, où d'ailleurs elle ne s'ennuyait point, ayant pour amis les filles de tous les banquiers et de tous les industriels que connaissait son père. Elle les recevait, les visitait, sortait avec elles, ou même seule, avec une femme de chambre, jouissant, selon la mode américaine, d'une liberté complète. L'air de Paris ne semblait cependant point favorable à la jeune fille. La maladie qui couvait en elle et dont Noémie, sa mère, lui avait transmis le germe, faisait des progrès. Maintenant, une tache de carmin tranchait sur la pâleur nacrée des joues de Mary. Le cercle d'azur tracé autour de ses paupières s'élargissait. Une petite toux sèche, opiniâtre, s'échappait à chaque instant de sa gorge. Jacques, effrayé par ces symptômes, avait fait appeler un médecin, malgré les résistances de Mary, qui riait des terreurs paternelles. Après un examen très sérieux, le médecin prononça des paroles rassurantes et ordonna un traitement qui devait, selon lui, enrayer le mal. Mary suivit ce traitement pour faire plaisir à son père, mais n'apporta aucune modification au reste de ses habitudes. Sans faire profession de coquetterie, la jeune fille aimait la toilette, et comme elle était maîtresse absolue de puiser à sa guise dans la caisse amplement garnie de Paul Armand, elle avait fait choix d'une des meilleures couturières de Paris. Madame Augustine, ainsi se nommait la grande faiseuse, possédait une clientèle très étendue dans le monde aristocratique et dans le monde de la finance. Quoique ses ateliers de la rue Saint-Honoré fussent vastes, Madame Augustine, pour arriver à satisfaire ses clientes chaque jour plus nombreuses, était obligée d'adjoindre à son personnel des ouvrières travaillant au dehors et à qui elle confiait de l'ouvrage. L'une de ces ouvrières libres était sa préférée. Elle eût désiré vivement l'attirer auprès d'elle, la voir à demeure dans sa maison, mais Lucie, c'était le nom de la jeune fille, voulait garder son indépendance et ne point quitter sa chambrette, située au plus haut étage de l'une des maisons du Quai Bourbon, dans l'île Saint-Louis. Cet amour de l'indépendance dont nous venons de parler était-il le seul motif de Lucie pour repousser les offres de Madame Augustine? Nous ne tarderons guère à le savoir. Lucie avait 22 ans et demi. Jamais plus fine, plus jolie tête de grisette parisienne n'avait couronné corps plus charmant d'un galbe exquis et d'une grâce incomparable. L'ouvrière était d'un châtain doré avec des yeux d'un bleu sombre à la fois très malin et très doux. Un gai sourire s'épanouissait sans cesse sur ses lèvres rouges, découvrant à demi des dents éblouissantes. Sa voix, sans être fort étendue, était fraîche et très juste. Ses voisins aimaient à l'entendre chanter en travaillant les refrains populaires des opérettes en vogue. La favorite de Madame Augustine était aimée et respectée de tous. Aimée parce qu'elle était bonne et serviable. Respectée parce que depuis 4 ans qu'elle habitait la maison, les langues les plus malfaisantes n'avaient pas pu formuler une accusation, ni même émettre un soupçon au sujet de sa conduite. On ne lui donnait pas un amoureux, mais on lui supposait un fiancé. Elle se mariera bientôt, la petite Lucie, disaient les gens bien informés, ou du moins se prétendant elle. Avec qui donc? Demandaient les autres. Avec son voisin, le dessinateur, parbleu. Son voisin? Quel voisin? Lucien Labroux? Parfaitement. C'est un charmant garçon, rangé, tranquille et travailleur. Il pioche ses dessins du matin au soir, et souvent bien tard dans la nuit. Il est d'âge à se marier, Lucien Labroux. Il est toqué de la petite Lucie. Et ça sera un bien joli couple quand ils seront mariés femmes. Il nous semble à peu près superflu d'affirmer à nos lecteurs que le Lucien Labroux dont on vient de parler était le fils de l'ingénieur assassiné à Alfortville par Jacques Garot dans l'usine en feu. À la mort de sa tante, Madame Bertin, Lucien, alors âgé de 20 ans, était resté seul avec quelques billets de 1 000 francs. Le jeune homme possédait l'amour du travail. Suivant le désir exprimé à plusieurs reprises par son frère, Madame Bertin lui avait fait faire des études sérieuses qui devaient le conduire à être un habile mécanicien. La vocation le guidait d'ailleurs de ce côté. Les humbles économies de sa tante lui permirent de pousser ses études aussi loin que possible. Quand elles furent achevées, il se mit en quête d'un emploi lucratif où il lui fut possible d'utiliser ses connaissances spéciales. Malheureusement, personne ne s'intéressait à lui. Les protections influentes lui manquaient. Il trouva toutes les places prises par des jeunes gens qui ne le valaient pas, mais qu'on appuyait d'une façon vigoureuse. Il fallait vivre cependant, vivre et payer l'impôt foncier pour les terrains d'Alfortville, qu'il ne voulait ni vendre, ni hypothéquer. Il résolut d'entrer dans un atelier où, tout en gagnant le pain quotidien, il acquerrait l'habileté matérielle de l'exécution. Bien vite, il n'eut pas de rivaux en ce qui concernait la perfection de l'ajustage. Mais il se sentait né pour autre chose que pour limer, marteler ou ajuster du fer ou de l'acier. Tout en étant un modèle d'exactitude à son atelier, Lucien cherchait des travaux au dehors. Il trouva des dessins à faire, des épures à mettre au net, des lavis à exécuter. Quand ses travaux furent assez nombreux pour assurer la vie matérielle, le jeune homme quitta l'atelier, où il n'avait plus rien à apprendre et où le contact de gens absolument sans éducation le faisait souffrir. Il préférait mille fois travailler chez lui. Le hasard le conduisit dans la maison qu'habitait Lucie et lui fit louer le logement contigu à celui qu'elle occupait. Assez souvent, Lucien rencontrait sa voisine dans l'escalier. Ils s'étaient salués d'abord en se croisant, puis un sourire avait accompagné le salut, puis ils avaient fait des haltes courtes d'abord, et bientôt plus longues, afin d'échanger quelques paroles. Enfin, l'amour s'était mis de la partie, un amour sérieux, sincère, absolument honnête. « Chère petite Lucie, je vous aime, » dit Lucien à la fille de Jeanne Fortier. « Lorsque j'aurai une position mieux assise, nous nous marierons. Voudrez-vous attendre que la fortune me sourie ?» Lucie répondit « Je vous aime aussi, et j'attendrai tant que vous voudrez. Mais pourquoi souhaiter la fortune? Vous êtes laborieux et je ne suis point paresseuse. Nous travaillons l'un et l'autre d'un bon courage. Il me semble qu'en réunissant nos deux bourses, le bien-être serait à la maison. » Lucien secoua la tête. « Vous n'êtes point de mon avis ?» demanda la jeune fille. « Non. Pourquoi ?»« Pour deux raisons. La première, c'est que quand nous serons mariés, vous aurez bien assez des soins du ménage. La seconde, c'est que l'homme, d'après moi, doit gagner assez pour faire vivre la femme et les enfants lorsqu'ils arrivent. » Depuis un an, ils attendaient. Mais si Lucie demeurait patiente, le découragement commençait à s'emparer de Lucien. Ses gains restaient médiocres et ne lui permettaient pas d'entrevoir, dans un avenir plus ou moins prochain, l'aisance à défaut de la fortune. Or, s'il épousait Lucie en de telles conditions, à la première grossesse, la misère arriverait. Les deux fiancés s'étaient mutuellement raconté leur histoire. Nous connaissons celle de Lucien. Celle de Lucie était bien courte. Une nourrice, qu'on ne payait plus, avait remis à l'assistance publique la petite fille, âgée d'un an ou de 18 mois. La petite fille avait grandi. Voilà tout. Cet enfant, nos lecteurs l'ont compris déjà, était la fille de Jeanne Fortier. Il était 10 heures du matin. Lucie venait d'empaqueter un corsage qu'elle se préparait à reporter aux ateliers de Madame Augustine. Elle prit son paquet, sortit de chez elle, referma la porte et alla frapper à lui du logement de Lucien, qui se trouvait, nous le savons, sur le même carré. La voix du jeune homme répondit « Entrez !» Lucie ouvrit la porte et franchit le seuil. Assis devant une table, Lucien dessinait. Il se leva vivement pour courir à la rencontre de la visiteuse. « Soyez la bienvenue, chère Lucie, » s'écria-t-il. La fille de Jeanne Fortier, au lieu de lui répondre, lui prit les deux mains et le regarda bien en face. « Comme vous êtes pâle !» fit-elle ensuite avec émotion et d'un ton de reproche. « Vous avez encore passé une partie de la nuit. » « Mais il n'y a point de mais. Est-ce vrai, oui ou non ?»« Eh bien, oui, » répliqua Lucien. « Je vous l'avais défendu. Je ne pouvais obéir. Il me faut ce soir livrer des dessins très pressés. Mais vous vous tuez à ce travail si mal rétribué. Que voulez-vous, chère Lucie? Il est misérablement payé sans doute, mais enfin, il me donne le pain de chaque jour. Vous devriez gagner 100 fois plus. Certes, mais il faut pour cela que la chance m'arrive. Partout où je me présente, on me répond d'une manière invariable. Nous n'avons besoin de personne en ce moment. Attendez. Et j'attends. J'attends sans cesse. J'ai bien peur que cette attente se prolonge aussi longtemps que ma vie. » Le silence d'un instant qui suivit ces paroles fut rompu par la jeune fille. « Lucien, » dit-elle d'une voix douce, « j'ai un reproche à vous adresser. »« À moi, mon ami ?» demanda Lucien. « Oui. Qu'ai-je donc fait? Qu'avez-vous à me reprocher ?»«
Une chose grave. » »«
Laquelle ?»«
Vous perdez courage. »
Lucien, le front baissé, balbutia.
« Pourquoi croyez-vous cela ?»«
Parce que je le vois. » Au lieu de vous raidir contre la mauvaise chance, vous courbez la tête devant elle, comme vous la courbez en ce moment devant moi. Notre tendresse mutuelle devrait cependant vous donner de la force et de l'énergie. Est-ce que vous ne m'aimez plus ?«
Ah ! S'écria Lucien. C'est mal et c'est cruel de m'adresser une pareille question. Vous savez bien que je vous aime de toute mon âme et plus que tout au monde.
Non, je ne le sais pas.
Si vous m'aimiez, vous n'useriez pas vos jours et une partie de vos nuits à des travaux qui vous donnent à peine le strict nécessaire.
Mais que voulez-vous donc que je fasse?
Ce que font ceux qui ne vous valent pas et qui pourtant arrivent.
Imposez votre mérite. Ne vous lassez pas de frapper aux portes qui refusent d'ouvrir. Frappez encore. Elles s'ouvriront.
Mais à frapper ainsi aux portes rebelles, les heures de mes journées passeront. Il ne me restera plus le temps de gagner ce que vous appelez, avec raison, le strict nécessaire, le morceau de pain qui permet de vivre.
Ne vous ai-je pas dit que j'avais déjà quelques économies?
Elles sont à votre disposition.
C'est à mon fiancé, c'est à mon futur mari que je les offre.
Je n'accepterai jamais cela, s'écria le jeune homme.
Lucien, vous me faites beaucoup de peine, reprit la fille de Jeanne Fortier. Vous me refusez la joie de vous venir en aide parce que je suis une femme. C'est cruel.
Mais enfin, vous avez des amis de collège en position de vous être pécuniairement utiles.
Pourquoi ne vous adressez-vous pas à eux?
Mendier, fit Lucien avec amertume.
Quel mot venez-vous de prononcer, mon ami?
Demander les moyens d'atteindre du travail, est-ce solliciter une aumône?
Me connaissez-vous donc assez mal pour me croire capable de vous pousser à une démarche humiliante?
Et ma pauvre Lucie, je les ai vus, ces amis dont vous parlez.
Eh bien?
Ils m'ont accueilli avec une gracieuseté banale jusqu'au moment où ils ont compris que j'avais besoin d'eux. Puis sont venus les faux fuyants et les fins de non-recevoir. Je me suis éloignée la tête basse et le cœur meurtri.
Tous ont été ainsi?
Tous.
Même ce jeune homme pour qui vous éprouviez une affection particulière et dont vous vantiez les qualités hors ligne?
Georges Darier, mon camarade d'enfance, mon inséparable du collège Henri IV?
L'avez-vous vu, celui-là?
Non.
Pourquoi?
Je ne sais où il demeure. Nous ne nous sommes point rencontrés depuis 6 ans.
Habite-t-il Paris?
Je l'ignore.
Quelle est sa carrière?
Il faisait son droit, il se destinait au barreau. S'il est avocat, il doit être facile de le trouver.
Sans doute, mais à quoi bon?
Ne sera-t-il point comme les autres? Si je le retrouve, n'emporterai-je pas de notre entrevue une désillusion, une déception nouvelle?
Qui sait si son cœur n'est pas resté pour vous ce qu'il était jadis?
Un pressentiment m'avertit que vous avez en lui un ami véritable.
Qui sait s'il ressemble aux autres?
Pour l'amour de moi, Lucien, cherchez-le.
Vous le voulez?
Je vous en prie.
Eh bien, chère Lucie, votre volonté sera faite.
Bientôt?
Dès aujourd'hui.
Et vous ne perdrez plus courage?
Non.
Vous me le promettez?
Je vous le jure.
Voilà une promesse qui me soulage d'un grand poids, dit la jeune fille avec un sourire.
J'ai tout fait, maintenant je respire.
J'étais triste en entrant chez vous, j'en sors joyeuse.
À bientôt, mon ami.
Je vais à mon magasin et je compte que vous aurez une bonne nouvelle à m'annoncer quand nous nous reverrons ce soir.
À ce soir, ma Lucie bien-aimée.
La jeune fille se pencha vers son fiancé et lui présenta son front. Lucien appuya ses lèvres sur les cheveux épais et soyeux, puis l'enfant s'élança dehors en lui envoyant du bout des doigts un baiser. Madame Augustine, la grande couturière, demeurait rue Saint-Honoré, près de la rue Castiglione. Lucie, qui trottait menue comme une véritable grisette parisienne et qui ne s'occupait ni des passants ni des boutiques, franchit rapidement la longue distance qui sépare l'île Saint-Louis de la rue Saint-Honoré. La jeune fille, au lieu d'être obligée d'attendre dans l'atelier de réception, comme les autres ouvrières rapportant de l'ouvrage du dehors, avait par une faveur spéciale ses grandes entrées dans le cabinet de la patronne et dans la pièce où la maîtresse coupeuse travaillait seule. Elle alla droit au salon d'essayage où Madame Augustine se trouvait avec sa première demoiselle et une jeune fille de 18 ans environ, blonde et jolie. Cette jeune fille devait être une cliente exceptionnelle, car la grande couturière daignait lui prendre mesure elle-même d'une robe de soirée. Madame Augustine tourna la tête vers la personne qui venait d'entrer.
« Ah, c'est vous, Lucie, »
dit-elle en adressant un sourire à la nouvelle venue. « Je suis enchantée de vous voir, et vous arrivez fort à propos. Je vais vous confier un travail pressé et qui demande beaucoup de goût. La robe de bal dont je prends mesure à Mademoiselle Armand,
Je veux que ce soit un chef-d'œuvre. »
Lucie jeta un coup d'œil à la jeune fille qu'elle voyait pour la première fois. Mary, en même temps, la regardait.
Leurs regards se croisèrent.
« Hein ?» dit la fille de Jacques Garot.
« C'est mademoiselle que vous allez charger de ma robe ?»«
Oui, » répondit Madame Augustine. « Lucie est ma meilleure ouvrière, celle dont le goût est le plus sûr. Ma confiance en elle est très grande et fort bien placée. Elle vous évitera un déplacement ennuyeux en allant vous essayer la robe chez vous dès qu'elle sera faite. Vous n'aurez plus à revenir ici que pour me donner de nouveaux ordres.
« Alors, mademoiselle Lucie, je vous attends, » dit Mary.
« Vous me trouverez toujours le matin à l'hôtel de mon père. À bientôt, n'est-ce pas ?»«
À bientôt, oui, mademoiselle. »
Mary, en passant devant l'ouvrière, lui sourit et sortit du salon d'essayage, accompagnée par Madame Augustine, qui voulut la reconduire jusqu'à l'escalier. Lucie détacha les épingles du paquet apporté par elle et étala le corsage qu'il contenait sur la table garnie de peluches cramoisies.
« Parfait, parfait, parfait !»
s'écria la grande faiseuse en rentrant après avoir examiné le corsage. « Lucie, ma mignonne, vous êtes un bijou. Il n'y a jamais que des compliments à vous adresser. Voilà pourquoi je vais vous confier la robe de mademoiselle Armand, qui est difficile à satisfaire. Aviez-vous déjà vu ici mademoiselle Armand ?»«
Non, madame.
C'est une Américaine. Son père, un industriel, je ne sais combien de fois millionnaire, a quitté New York pour venir se fixer à Paris. Elle a 18 ans, Miss Mary. Une de mes bonnes clientes, mais originale, fantasque. Pauvre enfant, ce n'est pas sa faute. C'est sa maladie qui veut cela. »
Elle est malade ? Demanda Lucie.
Elle s'en va de la poitrine, et elle a l'air de ne point s'en douter. Hélas, ça ne se voit que trop. Ces taches rouges sur les pommettes, cette petite toux trahissent le mal. Jeune, jolie, riche, tout pour être heureuse et mourir. C'est bien triste, hein ?
Oui, madame, bien triste.
Que voulez-vous ? C'est la vie. Ma mignonne, on va tailler cette robe qui sera d'un rose pâle et toute garnie de jais blanc. Demain matin, vous viendrez la chercher en voiture. Je vous remettrai les garnitures en même temps et je vous donnerai mes instructions.
Bien, madame, mais d'ici à demain, avez-vous le temps de faire une pelisse d'enfant en cachemire blanc piqué ?
Oui, madame. Je veillerai au besoin pour la finir.
Eh bien, passez à l'atelier de coupe, prenez la pelisse, faites ensuite régler votre livre et allez à la caisse. Je suis très contente de vous, Lucie. Voici 2 louis de gratification.
Je vous remercie, madame, fit la jeune fille avec effusion. Je ne sais comment reconnaître vos bontés pour moi.
Vous les méritez, mon enfant.
Ah, prenez l'adresse de l'Américaine.
Lucie tira de sa poche un carnet et attendit.
Madame Augustine lui dicta cette adresse qu'elle écrivit aussitôt. « Mademoiselle Mary Armand, rue Murillo, numéro 27. » Ceci terminé, la fille de Jeanne Fortier alla successivement à l'atelier de coupe, puis à la caisse, et reprit le chemin de sa chambrette du quai Bourbon, où elle se mit au travail, en attendant le retour de son fiancé. Lucien, après avoir déjeuné dans une crèmerie où il prenait habituellement ses modestes repas, était allé reporter ses dessins. Le mécanicien pour lequel il faisait des plans habitait ici. La route était longue et le jeune homme dut encore attendre qu'on lui donnât d'autres travaux. Une fois libre, il résolut de tenir sa promesse à Lucie et de savoir le plus tôt possible si Georges Darrier habitait Paris. Pour cela, il suffisait de jeter les yeux sur le tableau de l'ordre des avocats. Or, ce tableau se trouve au palais de justice. Il s'y rendit, s'adressa à un jeune avocat en robe dans la salle des pas perdus et lui demanda un renseignement. « Inutile de consulter le tableau, monsieur, » répondit le jeune homme. « Georges Darrier est un de mes confrères les plus estimés. Je le connais et vais vous donner son adresse. » Puis l'obligeant collègue de Georges, tirant de sa poche un agenda, l'ouvrit à la page consacrée aux avocats et lut à haute voix. « Rue Bonaparte, 19. »«
Merci 1000 fois, monsieur. »
Lucien quitta le palais et regarda l'horloge de la façade. Elle marquait 5 heures. « Je dois le trouver à 7 heures dans son cabinet, et la rue Bonaparte n'est pas loin d'ici, » pensa le fils de Jules Labroux. Lucie a raison. J'ai eu tort de perdre de vue si longtemps celui qui s'est toujours montré pour moi un véritable ami. Peut-être en effet vaut-il mieux que les autres, et n'aura-t-il pas changé comme eux ? Et rendu joyeux par la pensée qu'il allait revoir son camarade d'enfance, il se dirigea vers la rue Bonaparte. Georges Darrier n'avait fait au palais ce jour-là qu'une courte apparition. Après avoir plaidé devant la sixième chambre une affaire correctionnelle très simple, il était rentré chez lui et piochait le dossier d'une cause importante qui devait venir prochainement à l'audience du tribunal civil. Le tintement de la sonnette l'interrompit dans son travail et la vieille servante, Madeleine, lui vint annoncer la visite d'Étienne Castel. Georges courut au-devant du peintre qui avait été son tuteur et qui restait son meilleur ami. Étienne n'était plus le jeune homme que nous avons vu descendre du chemin de fer, le sac de voyage au dos, pour se rendre au presbytère de Chevry 21 années auparavant. Il avait de beaucoup dépassé la quarantaine, mais si ses cheveux et sa moustache grisonnaient, il conservait son visage ouvert, son regard franc, ses allures lestes et l'expression gaiement insouciante de sa physionomie. Toujours mince et bien découplé, il marchait d'un pas ferme et la tête haute. Vêtu avec une recherche voisine de la coquetterie, il portait à la boutonnière le ruban de la Légion d'honneur. Georges lui tendit les mains en s'écriant « Savez-vous bien que vous devenez rare, mon cher tuteur? Voilà 15 grands jours que je ne vous ai vu. » « Oui, répondit l'artiste, j'avais un tableau à finir. Seulement, la distance est courte de la rue Bonaparte à la rue d'Assas, et tu aurais pu venir me voir. Je le désirais vivement, mais j'étais moi-même accablé de besogne. Tant mieux, je ne t'en veux pas. Et la preuve, c'est que si je ne suis point un dérangement pour toi, je viens te demander à dîner. » « Un dérangement, vous? Ah, cher tuteur, vous n'en croyez rien. Eh bien, alors, dis à Madeleine de mettre mon couvert et de nous confectionner une de ces timbales de nouilles au fromage et au jus dont elle a le secret. » Georges sonna en riant. La vieille servante accourut. « Monsieur Désir ? » demanda-t-elle. « Mon tuteur dîne avec moi, » commença Georges. « Et je vais préparer une timbale de nouilles, » interrompit Madeleine. « C'est bien ça, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oui, Madeleine, c'est bien ça. » À 7 heures précise, le dîner sera servi. Et je monterai 2 bouteilles du vieux vin de Corton que monsieur Étienne trouve si bon. Bravo, Madeleine. La servante se retira et le peintre reprit. Maintenant que j'ai terminé mes travaux pressés, mes tableaux de commande, je veux retoucher une toile peinte il y a 21 ans et dont j'avais fait l'ébauche chez mon vieil ami, ton excellent oncle, le curé de Chevry. Le tableau qui se trouve au fond de l'atelier et que recouvre une toile grise? Oui. Pourquoi le cachiez-vous? Je ne le cachais pas, je ne le montrais pas, voilà tout. C'est une œuvre de jeunesse, et par conséquent bien incomplète dans certaines parties. Mais maintenant je vais le recaler, et le verra qui voudra. À ce propos, j'ai besoin que tu me rendes un service. Disposez de moi. Tu as conservé religieusement, je le sais, un souvenir de ton enfance, un petit cheval de bois et de carton, qui me vient de ma bonne mère, acheva Georges Darier. Elle me l'avait donné quand j'étais tout petit. Il y a si longtemps que je ne m'en souviens pas, et je le garde comme une précieuse relique. Il est là, sur un fût de colonne et sous un crêpe de deuil. J'ai besoin que tu me prêtes cette relique. Vous en avez besoin ? S'écria Georges. Oui. Pourquoi faire ? Pour mon tableau. Le jeune avocat fit un geste de stupeur. Que représente-t-il donc, ce tableau ? Demanda-t-il. Une scène touchante et dramatique. Des gendarmes viennent arracher d'une maison où elle s'était réfugiée une pauvre femme accusée de quelque crime. Le groupe est saisissant et les personnages nombreux. Outre la femme arrêtée, les gendarmes, le maire, le garde champêtre, j'ai placé sur cette toile ta mère, ton oncle, moi-même faisant un croquis de cette scène, et enfin toi, mon cher Georges. « Moi ? » répéta le fils de Jeanne Fortier. « Oui, toi, qui semble implorer les gens de justice et leur demander de faire grâce à la malheureuse. » « Et cela est arrivé ?»« Oui. Et j'étais là ?»« Parfaitement. » En racontant ce qui précède, Étienne Castel avait les yeux fixés sur le visage de Georges, étudiant l'effet produit par ses paroles et cherchant si ce récit rapide ne raviverait pas un vague souvenir du passé. Georges écouta sans tressaillir. « C'est singulier, » dit-il. « On prétend que les impressions gravées dans la mémoire d'un enfant sont ineffaçables. Il n'en est point ainsi pour moi. » Tout a disparu. Quel âge avais-je donc à cette époque ? 3 ans et demi. Il y a donc 21 ans de cela ? Oui. Je ne me souviens de rien de cet âge. Cherche bien. J'ai beau chercher, c'est la nuit, l'obscurité complète. Eh bien, reprit Étienne Castel, tu avais près de toi, dans le jardin où la scène se passait, le petit cheval donné par ta mère.
et comme je veux soigner tous les détails, comme celui-là d'ailleurs est caractéristique et pittoresque, j'ai besoin du joujou en question pour le peindre d'après nature, car je n'ai fait que l'indiquer de souvenir. Je vous le ferai porter, mon ami, ou je vous le porterai moi-même. Je te remercie d'avance. D'après ce que vous venez de me dire, continua Georges, les portraits de ma mère, de mon oncle, le vôtre, se trouvent sur cette toile? Et le tien, oui. Avez-vous le projet de vendre le tableau en question? Pourquoi diable me demandes-tu cela? Parce que je n'ai encore chez moi rien de vous, et que je vous achèterai ce tableau qui serait pour moi plus et mieux qu'une œuvre d'art. Tu veux m'acheter de la peinture? Fit Étienne en mordillant ses longues moustaches. Pourquoi non? Tu es donc bien riche? Tu sais que je vends très cher. Georges répondit en souriant. Je sais cela, mais je sais également que vous me traiterez en ami. Il aura de la valeur, ce tableau. Comme toutes vos œuvres. Plus que les autres. Eh bien, cher tuteur, estimez-le. Et si je ne puis vous le payer tout de suite d'un seul coup, vous m'accorderez un peu de crédit pour le reste. Cela te ruinera. Si cela fait un trou, je le boucherai vite à force de travail. Étienne Castel haussa les épaules. Tu es vraiment bêta, mon pauvre enfant, dit-il avec un gros rire. N'as-tu donc pas compris que ce tableau est à toi, et que si je le retouche, c'est uniquement pour te l'offrir? Ah, cher tuteur, c'est une surprise que je voulais te faire. Mais va te promener, pas moyen. Eh bien, la voilà faite, ma surprise. Le jour où j'aurai fini, le tableau sera chez toi. Prépare-lui donc une belle place dans ton salon. Et quand aurez-vous fini? C'est difficile à dire. Il n'y a pas mal à faire et je ne travaille point à cela seulement. Mettons 4 ou 5 mois. Mais d'ici là, au moins, pourrai-je le voir? Toutes les fois qu'il te plaira de me rendre visite à mon atelier. Dès demain, alors. Dès demain, si tu veux. Georges prit les mains d'Étienne Castel et les serra avec effusion. Ah, que vous êtes bon, cher tuteur, dit-il en même temps. Je vous remercie par avance et de toute mon âme. Mais, dites-moi, cette femme arrêtée par les gendarmes chez mon oncle, à la cure de Chevry, et qui, je le vois, occupe la première place dans votre tableau, qu'avait-elle fait? On l'accusait du triple crime de vol, d'incendie et d'assassinat, répondit l'artiste. Oh, la malheureuse! Elle a passé en justice, sans doute. Oui. A-t-elle été condamnée? À la réclusion perpétuelle, oui. C'est qu'alors elle était coupable. Sans doute, puisque les juges ont trouvé des preuves suffisantes pour la condamner. Savez-vous son nom? Je l'ai su autrefois, mais je l'ai oublié. L'entretien en était là quand un nouveau coup de sonnette se fit entendre. Si c'est un client qui vient te consulter, j'irai fumer une cigarette dans ta chambre, dit Étienne. Attendez un instant, nous allons voir. Madeleine entra. Qui est-ce? Lui demanda Georges. Un monsieur qui demande à parler à monsieur. Pour affaire? Non, pour voir monsieur, tout simplement. Vous a-t-il donné sa carte? Il n'en avait pas sur lui. Au moins, elle vous a dit son nom. Pour ça, oui, il s'appelle Lucien Labroux. Georges poussa une exclamation de surprise et de joie. Lucien Labroux? Répéta le peintre étonné. Oui, un ancien camarade de collège, un ami que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Est-ce que vous le connaissez, mon cher tuteur? Je crois du moins connaître son nom. Vous me permettez de le recevoir en votre présence? Non seulement je te le permets bien volontiers, mais je t'en prie. Madeleine, faites entrer. La vieille servante sortit et une seconde plus tard, Lucien Labroux parut sur le seuil du cabinet. Georges lui tendit les bras en s'écriant « Lucien, mon cher Lucien !» Les deux jeunes gens, très émus, se donnèrent une accolade fraternelle. « Ah, que c'est bien à toi d'être venu, dit Georges, et que je suis heureux de te voir. »« Pas plus que moi de t'embrasser, répliqua Lucien. » Puis il s'inclina devant l'artiste. « Mon tuteur est mon ami, fit le jeune avocat. « Monsieur Étienne Castel. » Un peintre hors ligne dont je connais et dont j'admire le talent si fin et si distingué, répliqua Lucien en s'inclinant de nouveau. « Vous me prenez par mon faible, monsieur, dit le peintre en souriant. Les artistes aiment la louange, et je ne fais point exception à la règle générale. « Tu habites à Paris ? » demanda Georges à son ami. « Oui, depuis 2 ans. Une vocation irrésistible te poussait vers la mécanique. Tu es à la tête d'un établissement ?»« Hélas, non. Comment non ? Avec ton mérite ? Ce que tu veux bien me faire l'honneur d'appeler mon mérite ne m'a jusqu'à ce jour conduit à rien. Je végète, J'en suis réduit pour vivre à faire des copies de machines, des lavis, des épures.
Je tombe de mon haut.
Les choses sont ainsi, et je n'ai point le courage qui me manque, cependant.
As-tu fait des démarches pour te caser?
De nombreuses démarches, toutes infructueuses, et en désespoir de cause, je viens te trouver.
C'est ce qu'il aurait fallu faire tout d'abord. Un garçon comme toi doit ouvrir ses ailes, prendre son vol et non végéter.
Tu avais une tante?
Oui, la sœur de mon père, une bonne et sainte femme, qui est morte peu de temps après le jour où je t'ai vue pour la dernière fois.
Ne t'a-t-elle rien laissé?
Quelques milliers de francs qui m'ont permis de compléter mes études.
Eh bien, mon cher Lucien, je ne regrette qu'une chose, c'est que tu aies tant tardé à t'adresser à moi. Dès demain, je m'occuperai de toi, et d'une façon sérieuse.
As-tu par hasard quelque chose en vue?
Oui.
Quoi donc?
Que penserais-tu de la situation de directeur des travaux dans une grande usine pour la construction des machines et mécaniques appropriées au chemin de fer?
Cela dépasserait toutes mes espérances.
Eh bien, j'ai l'espoir d'obtenir pour toi cet emploi.
En France?
Tout près de Paris.
Voici comment. Un ingénieur mécanicien français qui a réalisé une grande fortune à New York vient de revenir dans la mère patrie avec l'intention d'y créer des ateliers semblables à ceux qu'il possédait aux États-Unis.
Cet ingénieur est mon client. Je viens d'avoir la chance de lui rendre un très important service. J'ai donc le droit incontestable de lui demander une faveur qui deviendra pour lui une excellente affaire. En ce moment, il dirige la construction d'immenses ateliers sur les bords de la Seine, à Courbevoie. Et bientôt, il doit faire appel à l'élite des dessinateurs, des mécaniciens ajusteurs, etc., etc., afin de pouvoir commencer les travaux qui, après avoir illustré son nom en Amérique, l'illustreront en France. Je t'assure que ton engagement, bien en règle, sera le premier signé par le grand inventeur qui se nomme Paul Armand.
Paul Armand, répéta Lucien.
Serait-ce l'associé de James Mortimer de New York?
Lui-même. Je vois que son nom t'était connu.
Qui ne connaît ce nom? C'est à Paul Armand que l'industrie doit les machines à coudre silencieuses et la machine à guillocher perfectionnée dont mon père, qui lui aussi était un inventeur, avait eu autrefois l'idée, m'a raconté ma tante.
« Eh bien, tu deviendras le bras droit d'un homme de talent, » dit Georges.
« Ah, mon ami, si tu obtiens cela, quelle reconnaissance ne te devrais-je pas ?»«
Je crois que tu peux regarder la chose comme faite. Mais pas un mot à qui que ce soit de notre entretien et de ma promesse. Les demandes vont affluer. Je tiens fort à ce que la mienne soit la première en date. Laisse-moi donc agir et compte sur moi.
Tu sais que tu dînes avec nous. »
« Mais, » commença Lucien.
« Oh, point d'excuse, » interrompit Georges. Je te préviens que je n'en accepterai aucune, même celle d'un travail pressé. Tu rattraperas demain le temps perdu.
Je te garde. Résigne-toi.
J'accepte donc, mon ami, et avec bien de la joie.
À la bonne heure. Quelle charmante soirée nous allons passer.
Georges frappa sur un timbre. La vieille servante parut.
Un couvert de plus, Madeleine, lui dit le jeune avocat.
Renforcez votre menu, et au corton cher à mon tuteur, « joignez deux bouteilles de champagne. »
Madeleine sortit et l'entretien se renoua.
« Vous disiez, il n'y a qu'un instant, monsieur, que votre père était un inventeur, n'est-ce pas ?» demanda Étienne Castel à Lucien.
« Oui, monsieur. »
« Seriez-vous le fils de monsieur Jules Labroux, dont l'usine fut incendiée il y a 22 ans ?»«
Oui, monsieur, et mon malheureux père mourut assassiné au milieu de l'incendie. »«
Ton père assassiné ?» fit Georges avec étonnement. « Tu ne m'avais jamais raconté ce drame terrible ?»
C'est ce que j'ignorais moi-même, mon cher Georges. Pendant mon enfance et ma première jeunesse, on m'avait tout caché pour m'éviter une trop écrasante émotion. Je n'ai appris l'effrayante vérité qu'à l'époque de la mort de ma tante.
Lucien ajouta en s'adressant à Étienne. « Vous connaissiez mon père, monsieur ?»«
Je ne l'avais jamais vu, mais j'entendis parler, comme tout le monde, de la tragédie d'Alfortville. Et le nom fort estimé de Jules Labroux reste aggravé dans ma mémoire. »
L'artiste se disait tout bas. Étrange caprice de la destinée qui fait du fils de la victime le plus intime ami du fils de l'assassin.
« Le criminel a-t-il été puni ?» demanda Georges.
« Une femme déclarée coupable du meurtre de l'incendie a été condamnée à la réclusion perpétuelle, » répondit Lucien.
« Une femme ?» s'écria Georges.
« Oui, elle avait pris la fuite après l'accomplissement des crimes d'Alfortville. Elle a été arrêtée dans le presbytère d'un village situé à quelques lieues de Paris. »
Georges jeta sur Étienne Castel un coup d'œil interrogateur.
« Tu ne te trompes pas, mon ami, » répondit l'artiste à ce coup d'œil. « La femme dont parle M. Labroux est bien celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui figure au premier plan du tableau que je te destine. »«
Ainsi ?» demanda vivement Lucien. « Vous avez vu cette femme ?»«
Je l'ai vue et je lui ai parlé. »«
Où donc ?»«
Au presbytère du village de Chevry, chez le digne abbé Logier, l'oncle de Georges. »